Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'heure du podcast des maternelles, ici Benjamin Muller, podcast des maternelles produit par France Télévisions. Le podcast des maternelles et aujourd'hui on parle d'un risque important, les accidents domestiques, avec un témoignage très fort que vous allez entendre, celui d'une maman qui nous raconte comment son bébé a été rescapé d'un accident domestique. On va écouter ce témoignage qui fait un peu froid dans le dos, je vous préviens tout de suite, même si bien sûr dans le terme rescapé d'un accident domestique, il y a bien sûr le mot rescapé. Et puis nous serons avec Christelle Gevel qui est médecin de PMI qui nous donnera des bons conseils pour éviter justement et prévenir ces accidents. C'est parti!
Alors on le sait, hein, parfois une petite minute d'attention et la vie d'un parent peut basculer. Florence, bonjour, merci bonjour. D'être avec nous. Alors vous meniez, Florence, une existence paisible en Bourgogne avec vos trois garçons qui s'appellent Sevan, Zaven et Narek. Et puis le 18 juin 2018, il y a eu un drame. Voilà, ce jour-là, votre petit dernier qui avait seulement 15 mois a été victime d'un grave accident domestique qui a failli lui coûter la vie. Je dis d'ores et déjà qu'il va bien aujourd'hui parce que ça ne vous déchire pas trop le cœur. Pour sensibiliser les parents aux multiples dangers de la maison, on avait envie de faire cette émission et d'écouter votre témoignage. Donc, on vous remercie d'être là. Et justement, dans cet objectif aussi, vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « Attendez-nous » aux éditions Sidney Laurent. Et donc, c'est aussi l'idée, hein, c'est de faire de la prévention. Merci beaucoup. Alors, Narek, c'est le petit dernier oui. de vos trois garçons, Florence. Il a 15 mois quand l'accident se produit. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ?
Oui, tout à fait. Alors, moi, j'étais au travail et mon mari était chez des amis avec les enfants. Et au moment de partir, les enfants ont pris quelques secondes d'avance sur mon mari et le coin de la maison lui bloquait la vue. Et a priori, Narek serait monté sur le portail, qui était un portail coulissant sur rail. Et son frère l'a fait voyager sur le rail. Et puis à un moment, il n'a plus eu envie de le faire. Il est parti. Enfin, c'est l'histoire de vraiment 3 ou 4 secondes. Et a priori, le portail a continué sa route sur le rail. Et comme il n'avait pas de butée de sécurité à la fin, arrivé au bout du rail, le portail est tombé, Narek était dessus. Et donc, il s'est retrouvé sous le portail.
Ouais, c'est ça, coincé sous le portail. Mmh. Comment est-ce que vous avez été prévenue ?
Alors, moi, je ne l'ai pas su tout de suite. Hein, comme j'étais au travail, je pense que quand je l'ai su, ça faisait déjà à peu près une demi-heure que ça s'était passé. C'est mon mari qui m'a... Quand j'ai enfin regardé mon téléphone, j'avais plusieurs appels en absence et... Quand j'ai essayé de le rappeler, il m'a dit « il faut que tu viennes aux urgences ».
C'était quoi votre première réaction ? Parce que vous n'étiez pas là, c'est quand même
j'étais
quelque
pas là.
Chose pour une maman.
C'était, alors, j'ai tout de suite senti la panique, j'ai tout de suite senti que ce n'était pas normal. Il m'a dit « le portail lui est tombé dessus ». Je me suis dit « bon, alors quoi ? Il s'est coincé une jambe, peut-être qu'il a une jambe cassée ». Ça a été tout de suite ma première idée. Mais dans la voix de mon mari, j'ai su que ce n'était pas ça, que c'était bien pire. Et je lui ai dit, bon, bah, j'arrive. Il m'a dit, t'es où ? Je lui ai dit, je suis à 5 minutes de l'hôpital. Il me dit, non, mais je viens te chercher. Je lui ai dit, non, bah, enfin, quand même, j'arrive. Et il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, son pronostic vital n'est pas engagé. Et je lui ai dit, alors, attends, il est question de pronostic vital. Et c'est là que j'ai compris que c'était beaucoup plus grave que ce que j'imaginais.
Alors justement, comme les blessures étaient très graves, Narek a été transféré par hélicoptère à Lyon, à l'hôpital Femme Mère Enfant, dans le service de réanimation pédiatrique. À ce moment-là, ils l'ont plongé dans un coma artificiel parce qu'il faut quand même dire qu'il avait le crâne fendu d'une oreille à l'autre, donc c'était énorme. Il avait une hémorragie cérébrale. Bon, vous arrivez dans la chambre d'hôpital, vous rejoignez votre petit garçon. J'imagine, enfin, j'ai pas de mots pour... et j'imagine que vous non plus, pour décrire ce que vous ressentez.
Non, c'est vraiment une angoisse énorme parce que dans un sens, on ne réalise pas et dans un autre, on se dit, bon, bah voilà, là, mon fils peut mourir. En fait, quand mon mari a dit que le pronostic vital n'était pas engagé, c'était une façon peut-être de me rassurer, mais ce n'était pas vrai. Le pronostic vital était engagé, il avait une grave hémorragie cérébrale. On le voit, il dort, enfin il a l'air de dormir, mais il est accroché à tout un tas de machines. On sait très bien, parce qu'on a demandé au médecin ce que voulaient dire les chiffres, et on voit que les chiffres sont mauvais. Et on ne sait pas si un jour il va se réveiller.
Et les médecins, ils vous ont dit quoi ? Ils vous ont parlé des séquelles possibles ?
Dans un premier temps, ils nous ont dit que c'était impossible de connaître les séquelles. Déjà, il fallait... le stabiliser, donc il était dans le coma, alors un coma artificiel, mais on ne savait pas s'il allait pouvoir se réveiller un jour. Et puis, l'IRM a eu lieu que 10 jours après, mais pendant ces 10 jours-là, il était dans le coma, donc on n'avait aucune idée.
Et puis, il faut tout réorganiser, il y a quand même les deux grands frères. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer ça? C'est retourner dans le quotidien et arriver quand même à tenir la famille?
Alors, moi, je ne l'ai pas géré du tout. Je ne pouvais pas quitter Narek, ce n'était pas possible. Je suis restée à l'hôpital absolument tout le temps. C'est mes parents et mes beaux-parents qui se sont relayés, puis parfois les voisins, y compris les enfants ou des amis. Mon mari a fait les allers-retours au bout de quelques jours. Il avait besoin de voir les grands. Moi, je ne pouvais pas, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas quitter l'hôpital. C'était, je vivais dans la salle d'attente à côté de sa chambre parce que être dans la chambre avec toutes les machines, c'était insupportable, mais ne pas le voir, c'était insupportable. Donc, je faisais des allers-retours constamment.
Et Zaven, qui était donc avec lui et qui a donc joué sur le portail avec lui, qui avait 4 ans à l'époque, il culpabilisait déjà, oui. Le pauvre petit chou.
Énormément. Mmh. Jusqu'à très récemment, il était persuadé d'être responsable de l'accident. Il nous a très souvent demandé pardon. Il nous a dit « je ne voulais pas lui faire mal ». Ça a été très compliqué pour lui. Et c'est une psychologue qui nous a guidés. En nous disant qu'il fallait pas, il fallait pas lui dire qu'il avait tort de penser que c'était de sa faute, mais plutôt de lui dire que c'était courageux de vouloir protéger son frère à tel point qu'il était capable de penser qu'il était en cause de l'accident.
Et vous, vous avez culpabilisé le fait que vous soyez pas là ?
Énormément. Énormément parce que moi, je suis une maman poule. Je suis tout le temps en train de superviser mes enfants à chaque instant. Et d'ailleurs, je prends sur moi pour essayer de leur laisser de l'espace, de l'air. Et j'ai toujours eu peur de l'accident. Et je me suis toujours dit, je fais en sorte de les protéger suffisamment. Il n'y a pas de raison, ça ne peut pas leur arriver. Et donc, Narek a eu son accident, j'ai sauté à la gorge de mon mari immédiatement. Ça a été mon premier réflexe. Je lui ai dit, mais enfin, tu n'es pas capable de surveiller ton fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça m'a demandé un énorme travail psychologique pour comprendre que si j'avais été là, ça n'aurait pas été différent. Mmh. Et que ce n'était pas de la faute de mon mari. Mais mon mari, lui, encore il y a quelques jours, il me disait, enfin, c'est de ma faute, j'aurais dû le surveiller mieux. Moi, j'en suis complètement revenue de ça et je sais que ce n'est pas vrai, ce n'est pas de sa faute.
Bien sûr, mais lui, ça doit être très, très difficile pour lui aussi.
Oui, mais ce n'était pas une carence parentale dans le sens où il n'a pas abandonné son fils. C'était quelques secondes, c'était 10 secondes peut-être.
C'est souvent ça, hein. D'ailleurs, on va en parler avec notre spécialiste, mais les accidents domestiques, on le sait, c'est souvent quand on croit que quelqu'un d'autre surveille son enfant ou 2 secondes d'inattention, ce qui est... quand même la vie, quoi, il faut le dire. Comment vous avez tenu émotionnellement parce que pendant cette période à l'hôpital? À quoi vous êtes raccrochée?
La famille, principalement, les amis, on a reçu beaucoup de soutien. On recevait des tonnes de textos, de mails, d'encouragement, de soutien, même si on les lit d'un œil et puis on n'arrive pas trop. Enfin, moi, j'ai assez peu répondu aux messages parce que j'étais pas prête mentalement à discuter, mais ça faisait du bien de recevoir du soutien. Et puis ma sœur qui était interne en pédiatrie à l'époque, et j'avais de la chance, elle travaillait à Annecy, donc c'est pas très loin de Lyon. Elle est venue très souvent, dès le premier soir d'ailleurs, le soir de l'accident. Il était pas loin de minuit quand on est arrivé à Lyon, et elle est arrivée à peu près en même temps que nous, et elle nous a apporté de quoi faire la première nuit, des sandwichs, des bananes. Elle avait acheté un pyjama à chacun, des brosses à dents. Et puis... elle me disait, tu sais, les médecins sont obligés de te dire ce qu'ils te disent. Le pronostic vital est engagé. On ne sait pas dans quel état est son cerveau. On ne sait pas s'il va se réveiller. Et s'il se réveille, on ne sait pas dans quel état il sera. Mais moi, j'ai vu des patients dans des états bien plus graves. Les enfants ont des ressources incroyables. Et la plasticité cérébrale, c'est quelque chose de merveilleux.
Donc, il y avait quand même la lumière et l'espoir.
Oui, voilà, l'espoir. Dès que je tombais dans le précipice, ma sœur me rattrapait en disant « Non, non, attends, je t'explique. Par rapport à ce qu'ont dit les médecins, par rapport aux résultats des tests, ça, c'est normal. Et je ne suis pas trop inquiète pour lui. »
Alors, il s'est réveillé doucement de son coma pendant 4 jours. Après, il y a eu l'IRM. Qu'est-ce qu'a révélé l'IRM, alors ?
Alors, des lésions cérébrales qui pouvaient se traduire par des troubles dys, donc dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, enfin, toute la liste. Il pouvait aussi éventuellement être aveugle, peut-être que d'un œil ou les deux, on ne savait pas trop. Il avait une brèche méningée, donc il le rendait plus sensible à la méningite. Et puis, il lui avait posé une dérivation intraventriculaire, donc un tuyau qui reliait les lobes de son cerveau à son abdomen. Et donc, s'il avait une crise d'appendicite, les bactéries pouvaient remonter dans le système, donc il était sensible à beaucoup de choses.
Après ça, vous avez pu le prendre dans vos bras, alors, quand il s'est réveillé?
Au bout de 10 jours, oui, j'ai pu le prendre dans mes bras. Alors, c'est pas que un bon souvenir. C'est vrai que quand il dormait, je lui tenais la main, je lui caressais les cheveux. Et quand l'infirmière m'a proposé de le prendre dans mes bras, j'étais vraiment très heureuse. Et j'ai tout de suite déchanté parce qu'il était rigide, parce qu'il avait plusieurs parties de son crâne qui avaient été rasées. Parce qu'il avait les yeux qui ressortaient énormément, il avait un nystagmus, donc il avait un œil qui...
Vous ne reconnaissiez pas votre enfant ?
Je ne l'ai pas reconnu. Je ne le reconnaissais pas, je ne reconnaissais pas son odeur. Il avait, à cause de l'intubation, il n'avait plus la même voix. Il essayait de parler, mais il n'y arrivait pas. C'était vraiment un moment qui était à la fois un confort de le retrouver et en même temps vraiment très perturbant.
Très, très difficile. Après, il y a eu une longue rééducation, etc., qui a duré plus de 4 mois. Oui. Aujourd'hui, quelles sont ses séquelles? Comment il va?
Alors, il va très bien. Les séquelles, on a un rendez-vous avec le neuropédiatre tous les ans et a priori, il n'en a pas. Il est même plutôt en avance pour son âge sur les apprentissages. Alors, il est en moyenne section. Il connaît sa table du 2. Et puis, il sait faire des petites divisions. Il sait que dans 18, il y a 3 fois 6.
Il ne va pas être 10, il va être HPI, non? Il va être au potentiel. C'est l'inverse.
C'est un délire. Non, il va très bien. C'est un garçon qui est plein de vie. Et il a conscience de son accident. Et il en parle parfois à l'école.
Et vous allez comment?
C'est une autre affaire. Moi, je pense que le traumatisme, il est ancré. J'ai fait en sorte d'avoir un suivi qui fait que j'ai repris le dessus, mais la moindre chose peut me faire replonger. C'est vrai que la moindre difficulté, la moindre fièvre, la moindre gastro, ça prend tout de suite des proportions énormes chez moi et je pense que ça va me suivre encore un moment.
On accueille tout de suite Christelle Guevel de la rue. Merci d'être là, docteur. Vous êtes médecin de PMI, auteur du livre Stéthoscope en compote. J'adore le titre de votre livre. Non, mais je vous le dis. Hein. C'est aux éditions Presse EHESP et vous êtes aussi rédactrice à la revue du praticien. Pardon. On a beaucoup de questions sur les accidents domestiques. Ouais. Évidemment, on a parlé de ce portail. Ça, c'est quand même c'est un truc auquel moi, perso, j'avais jamais pensé.
Non, mais je n'y aurais pas pensé non plus.
Voilà. Mais il se trouve que j'en ai un et donc, du coup, je fais très, très attention. Depuis. Mm. Quels sont les accidents domestiques les plus fréquents?
Les plus fréquents, c'est les traumatismes, et en particulier les chutes. Je tiens Thérèse parce que j'ai peur qu'elle tombe, donc voilà.
Simone. Ah bah d'ailleurs, c'est pas Simone, c'est comment ça s'appelle?
C'est Albéric.
Albéric. Attention sur les prénoms, docteur.
Albéric. Je tiens Albéric, ouais. Fermement. Donc c'est les chutes. Le plus fréquent, c'est les chutes de la poussette, la chute de la chaise haute,
de l'escalier,
de la table rangée, dans l'escalier. Voilà, ça c'est le plus fréquent.
D'accord.
Le plus grave, c'est les noyades. Un bébé, il peut se noyer dans 10 cm d'eau. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus grave. Le deuxième accident le plus grave, c'est l'étouffement par suffocation, en particulier chez le tout petit. Hein. On rappelle qu'un bébé dort dans un lit vide. Pas de tour de lit, pas de coussin, pas de couette, pas de doudou. Voilà, un lit vide. Juste le matelas, éventuellement la gigoteuse s'il fait froid.
Oui, c'est ça. Donc ça, c'est très important. Ouais. Rien du tout. Dans les tours de lit et tout ça, non, c'est une fausse bonne idée.
Voilà, exactement. On voit encore beaucoup de pubs pour les tours de lit. Non, pas de tours de lit. Autre accident assez fréquent, c'est les intoxications. Alors peut-être pour les plus grands, mais avec les plantes, avec les médicaments du grand-père, les produits ménagers, boulette de cannabis qui traîne sur la table basse.
Hein,
ouais, ça, c'est très fréquent.
N'importe quoi.
Ça, c'est vraiment. Pour une fois que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est là.
Voilà. Les brûlures avec la tisane, voilà, de Benjamin. Les brûlures, ça, c'est assez fréquent.
Ça ressemble plus.
En tout cas, donc prévenir les accidents, c'est notre mission de parents.
Oui.
C'est celle aussi du coup d'Angélique qui vous a envoyé une question en vidéo.
D'accord.
Bonjour. Comment faire passer le message à l'enfant et lui faire comprendre qu'il y a des dangers sans le paniquer et sans l'angoisser? Merci.
C'est vrai ça.
Mais oui, c'est vrai. La panique, l'angoisse, elle vient surtout des parents. En fin de compte, l'enfant, spontanément, il n'est pas angoissé. Donc, si on lui explique les choses posément, explicitement, il n'y a pas de raison qu'il s'angoisse. Par contre, il faut lui dire fermement. C'est-à-dire que ça, c'est interdit. Mmh. Voilà.
Typiquement, c'est vrai que la piscine, c'est quelque chose de terrifiant pour nous, les parents, quand ils ne savent pas nager. Ouais. Moi, je préfère qu'ils soient un peu trauma que...
qu'ils aient peur de l'eau, plutôt.
Ce sera non.
Imane nous dit « Chaque étape du développement de l'enfant comporte des risques spécifiques. À quoi doit-on faire attention selon les âges ?»
Selon les âges. Alors, les plus petits, les tout petits, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'étouffement par enfouissement, en fait. Voilà, le bébé qui s'étouffe dans la couette, ça, c'est ce qu'il y a de plus fréquent chez les tout-petits. Quand ils grandissent un peu, bah, quand ils commencent à se retourner, mais ils ne vont pas prévenir qu'ils vont commencer à se retourner, bah, ils peuvent tomber de la table allongée ou du canapé où on les a laissés tout seuls. Ensuite, quand ils commencent à faire du quatre pattes, bah, c'est justement aller trouver le petit Playmobil qui traînait et puis s'étouffer avec. Voilà, c'est ou les intoxications, voilà, trouver le petit médicament qui traînait. Et puis, quand ils marchent, bah, c'est à nouveau les chutes parce qu'ils escaladent, c'est les escaliers, c'est les fenêtres, attention aux fenêtres. Et puis, à tous les âges, il y a la noyade dont on parlait, et puis les animaux domestiques. On n'en a pas parlé encore, mais il faut faire très attention. On ne laisse pas un enfant tout seul avec un animal domestique parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire à cet animal. S'il lui tire la queue, par exemple, l'animal peut réagir de façon assez sauvage et le mordre.
Il y a Manon qui dit « Bonjour la maison des maternelles, mon bébé a 4 mois et dort avec papa et maman, comment faire pour le sécuriser au maximum et éviter la suffocation La suffocation.
Ah, c'est une question. Non, mais je veux dire, comme on parle d'un sujet difficile, on met un peu d'humeur, parce que sinon, on se pend tout de suite, vu le contexte.
Il faut alléger le propos. Il existe des lits de cododo qu'on peut coller au lit des parents sans barrière, et ça permet de sécuriser l'enfant, parce qu'il est dans son espace et il est quand même avec ses parents. Donc je pense que ça, c'est
et
une belle solution.
Pour remonter la barrière quand il dort.
Exactement, pour éviter qu'il tombe.
Quand on dit cododo, on peut rappeler la règle, c'est pas entre le papa et la maman.
C'est ça, parce que le risque, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est l'enfouissement en fait. Donc il y a les coussins, et puis même sous les parents, ça arrive. Hein, et donc après, vive la culpabilité. Donc il ne faut surtout pas que ça arrive, ça va trop vite. Donc voilà, on sécurise au maximum, et donc l'enfant ne dort pas entre ses parents au milieu de la couette et des coussins, non. Donc,
Marie, vous avez fait une batterie de tests de lit de cododo.
Tout à fait.
C'est pas forcément très cher.
Ça reste quand même un certain coût, pardon de vous le dire.
Ça dépend des bourses, Benjamin.
On n'en trouve pas ce
Oui, mais on peut en trouver en vente en...
Tout à fait, d'occasion.
Comment ça s'appelle? D'occasion, voilà. Voilà. Merci Marie.
Mais sinon, dans le lit à barreaux, à côté du lit des parents, voilà.
Ouais. Max vous demande... Alors ça, c'est... Franchement, cette question, j'avais envie de la poser, donc je suis contente de... Voilà. Pourquoi les tours de lit sont-ils encore vendus, alors?
Grande question.
J'ai pas mis le ton qu'il fallait, mais c'est ça. Pourquoi ils sont encore vendus, les tours de lit?
Merci de poser la question. De même que les trotteurs, les Youpala, pareil. De même que les colliers d'ambre avec lesquels les enfants s'étranglent.
Mon neveu, on a un...
On lutte pour... Moi, dès que je vois des images de pub là, sur Facebook, je les signale. Faites-le aussi. Je sais pas quoi vous dire.
Ça ne devrait plus être
vendu. C'est dangereux. C'est même un problème
de
santé publique.
De la déco, quoi, franchement.
Oui, les très jolis tours de lit tressés, là, qui sont vendus en plus comme soi-disant sécures. Non, certainement pas. Donc, vraiment pas de tours de lit.
Hector vous demande de parler des brûlures. Quels doivent être les premiers réflexes?
Alors, la brûlure, c'est grave parce que ça s'étend en profondeur et en largeur. Donc, le premier réflexe, c'est de couper la chaleur en refroidissant. Et pour refroidir, l'idéal, c'est de faire couler de l'eau. Alors, pas de l'eau gelée, parce que sinon, ça risque de faire un choc thermique, mais de l'eau à 15-20 degrés, voilà, qu'on fait couler abondamment et longtemps, au moins 20 minutes sur la brûlure, pour refroidir. Voilà. S'il y a des vêtements qu'on peut enlever, on les enlève. Si ça colle, surtout, on n'enlève pas.
On n'enlève pas si ça colle?
Non.
C'est-à-dire qu'on refroidit?
Le refroidir, ça c'est vraiment le réflexe à avoir, c'est refroidir pour éviter que la brûlure s'étende.
On m'a dit au SAMU, douche tiède quand je me suis brûlée. Là,
oui, ben voilà, ouais, douche tiède, de l'eau.
Les barreurs de feu, oui.
Coupeur de feu. Il paraît que ça marche.
Ça fonctionne. Moi, j'ai appelé un petit peu trop tard, sauf que j'ai une cicatrice. C'est la Russie que j'ai sur le dos. Bisous.
Rose vous dit, mon bébé de 8 mois est tombé de la table allongée, il n'a pas eu de vomissement, mais est-ce la seule chose à observer après une chute?
Non, il y a plein de choses à observer. Alors déjà, la gravité de la chute, elle dépend un petit peu de la hauteur de laquelle l'enfant tombe et puis de sur quoi il tombe. S'il tombe sur le tapis ou s'il tombe sur le carrelage, c'est pas pareil. Donc il faut surveiller plein de choses. Donc effectivement, les vomissements, les troubles de conscience, est-ce que l'enfant est somnolent? Est-ce qu'il a un comportement qui n'est pas habituel, des troubles de l'équilibre, où il parle bizarrement, ou un œil qui part, ou un saignement de nez, ou un saignement d'oreille, ou s'il a un hématome important. Ouais. Voilà, tout ça doit faire consulter. De toute façon, si on est inquiet, il vaut mieux consulter. Voilà, le réflexe.
Linda est maman de 2 enfants qui ont 3 et 6 ans. Elle a peur qu'ils attrapent les produits ménagers et qu'ils les ingèrent malgré le rangement en hauteur. Est-ce que vous avez des astuces?
Alors, la première des astuces, c'est de surtout pas les transvaser dans d'autres contenants que le contenant initial, parce que souvent, il y a des bouchons sécurisés qui permettent justement que les enfants ne les ouvrent pas. Et la deuxième astuce, si c'est par exemple des capsules de lessive là, qui sont très tentantes pour les enfants, voilà, c'est très joli, c'est très appétissant.
Et dans ce cas-là,
c'est un gros bonbon. Dans ce cas-là, c'est non seulement les mettre en hauteur, mais de fermer à clé, en fait, installer un petit verrou et fermer à clé si l'enfant...
Un coffre-fort.
Il y a d'autres contenants de lessive, en fait. Je crois qu'il faut éviter d'acheter typiquement ces trucs-là quand
Exactement.
On a des enfants.
Bah voilà,
si on ne peut pas vous laisser dire ça, Marie.
Michaela vous dit sécuriser sa maison à outrance. Cache-prise, barrière d'escalier, coin de table. N'est-ce pas prendre le risque que l'enfant fasse moins attention?
Quelle est la mesure?
Alors, il y a une réponse très, très facile. En crèche, c'est complètement sécurisé. Ça n'empêche pas les enfants d'explorer, de découvrir et de se faire mal.
C'est vrai.
Donc, de toute façon, ils trouveront toujours le moyen de se faire mal. Donc, sécuriser au maximum, ça évitera les problèmes. Non, vraiment, on leur explique. Ça n'empêche pas de leur expliquer. On leur dit ça, c'est dangereux, mais on sécurise.
Voilà. Mais c'est une bonne question. C'est Maria Montessori, non, qui disait, Marie, justement, à propos des escaliers. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre de barrière. Il faut au contraire apprendre au plus jeune âge à l'enfant de monter et descendre tout seul.
Oui, il faut leur apprendre, bien sûr, à monter et à descendre tout seul. Ça n'empêche pas de mettre la barrière. Parce que le jour où il va jouer au ballon avec son frère et que le ballon va dégringoler, il va courir après le ballon, il va pas avoir le réflexe de dire, voilà. Ou que son frère va le pousser, ou sa soeur va le pousser dans l'escalier, voilà. Ouais. Donc, on met la barrière et on apprend les deux, ceinture et bretelles.
Alors, Régine vous dit, mamie de 3 petits-enfants de 2 à 8 ans, je suis toujours un peu inquiète qu'il se passe quelque chose lorsqu'ils jouent dans le jardin. Mmh. En extérieur, à quoi devons-nous faire attention? Et c'est vrai que les grands-parents, c'est particulier, parce qu'à mon avis, ils ont une petite pression supplémentaire. Ce n'est pas des parents, quoi.
Bien sûr. Ouais, absolument. Voilà. Bah, c'est bien, ils font d'autant plus attention. Dehors, je dirais les plantes, parce qu'il y a des plantes qui peuvent être toxiques, typiquement le muguet, les digitales, le laurier.
Ah, le muguet, c'est toxique?
Ouais. Moi, je connais rien
vous
en plantes.
Vous n'avez pas vu Breaking Bad, non?
Ah non.
Pas dans Breaking Bad. C'est...
Comment
ah, c'est non, vrai. Enfin, il ne faut pas manger de muguet. Ouais.
Voilà, il faut éviter de manger de
muguet ni laurier. Ouais. Voilà.
Alors, laurier, je savais, mais muguet, je ne savais pas du tout.
Ouais. Donc, voilà, les plantes, faire attention. L'eau, on en parlait tout à l'heure, mais tous les plans d'eau, parce que l'enfant peut se noyer dans les plans d'eau. Mm-hmm. Et puis, donc, c'est non seulement la piscine, mais ça peut être le puits, ça peut être une
même
mare,
les petites piscines en plastique, piscines très en peu remplies. Hein.
10 cm, on disait. Un enfant peut se noyer dans 10 cm d'eau. Et puis, dernier danger, c'est les animaux. Pareil, on ne laisse pas un enfant sans surveillance avec un animal, parce qu'on ne sait pas. Ce qui peut se passer. Ouais, exactement, il peut se faire mordre.
Maëva dit, habitué à un four à porte froide, mon petit Jules, 18 mois, ne se méfie pas du feu de cheminée. Quelle précaution.
Alors bon, bah, il existe des barrières pour sécuriser la cheminée, là, il ne faut pas hésiter à investir là-dedans, et puis lui expliquer, hein. Il est capable de comprendre, mais les deux, ouais, mettre une barrière, ça existe.
Ouais. Valentin vous demande, quid des réflexes en cas de noyade?
Alors, la première des choses, c'est de sortir l'enfant de l'eau et prévenir les secours. Et ensuite, il y a deux choses à regarder, en fait. Il faut regarder, merci Marie.
De rien, je prends Albéric. Disponible.
Qui est lourd, Albéric.
Oui.
Bien mangé.
Deux choses à regarder. Donc, on le sort de l'eau, on prévient les secours. S'il est conscient, qu'il respire, on le réchauffe. Donc, tout de suite, il faut le couvrir et puis on le garde dans les bras et on le surveille. D'accord? Conscient, respire, on... Voilà.
On ne fait pas de...
On le réchauffe.
De bouche à bouche, rien s'il respire.
Il est conscient, il respire. Voilà. S'il est inconscient et qu'il respire, à ce moment-là, on fait pareil, mais on le met en PLS. Alors, si c'est un tout petit, la PLS, ça veut dire le mettre dans les bras. Je suis en train de tout démolir dans cette position-là. Voilà.
Tout petit, c'est quel âge?
Position latérale de sécurité. Tout petit, c'est quand il tient dans les bras, d'accord, en fait, hein, moins d'un an. Mm-hmm. Okay. Voilà. S'il ne respire pas, c'est là où il va falloir intervenir. Donc la première des choses, c'est de souffler 5 fois dans la bouche, bouche et nez éventuellement, parce qu'ils sont petits, 5 fois, et puis ensuite entamer le massage cardiaque.
Donc on fait d'abord 5...
5 insufflations.
5 insufflations sans masser.
Absolument. Et d'accord, ensuite, on masse. Alors, si on n'est pas à l'aise avec le bouche à bouche, on ne peut faire que masser. D'accord. Voilà, c'est bien suffisant. Et si on est à l'aise avec le bouche à bouche, on fait 30. Alors, les compressions, c'est comme ça, hein, pour un tout petit.
Single live aussi pour les enfants.
Ouais, exactement. Sur le rythme single live, donc c'est quasiment 2 par seconde, donc c'est assez rapide, donc c'est ce rythme-là. Voilà, et ça, on en fait 30 et on ressouffle 2 fois. 30 et on ressouffle 2 fois jusqu'à ce que les secours arrivent. On n'arrête pas. Ou alors, si l'enfant recrache son eau et reprend conscience, à ce moment-là, on le met en.
Et alors, parce que là, vous montrez, mais ça, c'est pour les tout petits, par exemple, pour les enfants de 5, 7, 10 ans.
Un petit peu plus grand. Alors, c'est avec le talon.
Genre l'âge de vos enfants, par exemple.
Bah, des nôtres en général, si je peux me permettre.
À ce moment-là, je me permets de mettre debout. Et dans ces cas-là, c'est le bras tendu avec le talon de la main et on masse de cette façon-là. Et l'endroit où on masse, c'est sur la ligne mamelonnaire, hein, entre les deux,
là où c'est plus, où ça devient mou.
Non, absolument pas. Dans la cage thoracique, hein, là où c'est dur, entre les deux seins.
Tac. Entre les deux tétons, faire un trait, voilà. Petit point.
Exactement.
Oui, bah, alors attendez, t'as un coup pas, chérie, parce que. Je vais tirer un trait, puis je vais commencer
dans
le massage.
Dans le dur.
D'accord, ok.
Et si vous cassez une côte, c'est pas grave, sinon il est en train de mourir, donc il vaut mieux casser une côte.
Oui, c'est ça. Donc on y va quand même, il faut y aller, franco.
Il faut y aller. Donc on sort de l'eau, on prévient les secours, on regarde s'il est conscient, s'il respire. Voilà, conscient respire, on le surveille, on le réchauffe, on le surveille. Inconscient respire, on le
met en PLS.
Si jamais il vomit, qu'il s'étouffe pas, voilà. Ouais, et inconscient respire pas, à ce moment-là, on insuffle 5 fois et on masse.
On devrait tous prendre des cours de.
Mais ça veut dire s'il est inconscient et qu'il respire, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il est inconscient?
Inconscient, bah, il est dans le coma, en fait.
Ah
il
oui, c'est ça.
Malaise. Ouais.
Son
cerveau est plus bien oxygéné.
Brune est en plein aménagement et elle est enceinte. Elle vous demande quelles précautions niveau sécurité, notamment pour les meubles?
les meubles, éviter d'acheter des meubles avec des coins aiguisés et puis fixer les meubles au maximum parce que les enfants,
ils ça, pas, ouais, ça,
qui commencent, voilà, ils escaladent sur les étagères et puis ça peut leur tomber dessus. Ouais. En fait. Voilà.
Et il n'est jamais trop tard pour fixer des meubles déjà installés, toutes les bibliothèques, toutes ces choses-là, Marie.
Bien sûr.
Merci, Marie.
Je vous en prie.
Non, on peut aussi rappeler, pas de chaise, rien du tout sous les fenêtres.
Ah, oui. Exactement, et défenestration. Alors ça, à partir de 12 mois, les enfants peuvent escalader et si la fenêtre est ouverte, passer par la fenêtre. Donc bien sûr, on ne met rien sous la fenêtre et on ferme les fenêtres. Jamais un enfant doit être laissé sans surveillance. Alors je ne dis pas seul, un enfant seul, s'il y a quelqu'un qui ne le surveille pas, ça ne sert à rien. Donc sans surveillance, non. Donc on ferme les fenêtres et rien sous la fenêtre.
Merci beaucoup à Christelle Guével, médecin en PMI, merci pour ce témoignage et merci à vous, bien sûr, d'avoir écouté ce podcast des maternelles. Tiens, si vous avez deux petites secondes, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs sur votre application de podcast ou à vous abonner à ce podcast, voire même le Graal suprême, à mettre un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour être mieux référencés. Comme vous le savez, dans l'univers du podcast, plus on est référencé, mieux c'est et plus on est content. Voilà, merci beaucoup si vous pouvez prendre ces deux petites secondes. Je sais que tous les podcasts vous le disent, mais voilà, si vous pouvez prendre deux secondes, ce serait super cool. Allez, on se retrouve demain à 9h28. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde!